Fréquence Europe, l'émission européenne des radios Judaïca, elle est réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïca Strasbourg et RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. En ce mois de novembre, où la Convention européenne des droits de l'homme fête ses 70 ans, nous avons le plaisir d'avoir au téléphone, confinement oblige, M. Mathias Guillaumard, le nouveau juge français à la Cour européenne des droits de l'homme. Bonjour, M. Guillaumard.
Bonjour.
Alors, au cours de cette émission, nous aurons aussi au téléphone Caroline. Bonjour, Caroline.
Bonjour, Olivier.
Vous faites actuellement un service civique au Centre d'information sur les institutions européennes de Strasbourg et nous nous retrouverons régulièrement dans cette émission pour une chronique européenne. Alors, quel est le sujet de votre chronique aujourd'hui ?
Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter un concours pour les jeunes.
Parfait, on se retrouve tout à l'heure. M. Guillaumard, vous êtes depuis le 22 juin 2020 le nouveau juge français à la Cour européenne des droits de l'homme. Pouvez-vous revenir sur l'itinéraire professionnel qui vous a mené jusqu'à la Cour européenne ?
Oui, bien sûr. En réalité, cet itinéraire est assez simple puisqu'à la sortie de l'ENA, j'ai directement rejoint le Conseil d'État où j'ai passé toute ma carrière professionnelle, ce qui n'est pas l'habitude de mes collègues du Conseil d'État qui souvent font des allers-retours entre l'administration, les entreprises publiques, parfois même pour certains privés. Moi, j'ai passé entre 1996 et juin de cette année toute ma carrière au sein du Conseil d'État en occupant diverses fonctions. Mais mon métier a été celui de juge administratif. J'ai aussi exercé des activités consultatives au sein du Conseil d'État, mais principalement, étant affecté à la section du contentieux, c'est celui de juge qui a occupé toutes les premières années, longues années maintenant, je peux le dire, de ma carrière.
Et les droits de l'homme dans tout ça ?
Le juge administratif, comme d'ailleurs le juge judiciaire français, est régulièrement confronté à la question du respect effectif des droits de l'homme. Et je dirais que s'agissant du Conseil d'État, puisque nous connaissons beaucoup d'affaires qui mettent en cause les prérogatives de puissance publique, il y a beaucoup, beaucoup au Conseil d'État de contentieux qui posent des questions de respect des droits de l'homme. Il peut s'agir de mesures de police administrative, de sanctions, de textes réglementaires qui vont organiser, parfois limiter l'exercice d'un certain nombre de libertés. Lors de mes dernières semaines d'activité au Conseil d'État, c'était malheureusement la première crise sanitaire. Et comme juge des référés, j'ai eu à connaître beaucoup de litiges concernant les mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre le Covid. Et vous voyez bien que dans la balance que l'on fait entre l'intérêt général poursuivi par la mesure et l'atteinte ou la restriction apportée à certaines libertés, la question des droits de l'homme est très présente. Et donc, c'est dans mon premier métier de juge administratif que j'étais amené non seulement à appréhender la portée des droits et des libertés fondamentales, mais aussi à peser ce qui doit être, dans tous les cas, protégé, préservé, et puis ce qui peut, de temps en temps, connaître certaines limitations, certaines restrictions.
Et quel regard vous portez sur la Cour et cette convention qui fait donc ses 70 ans ? Maintenant, vous prenez votre fonction de juge. En fait, quel regard vous avez sur cette Cour et sur les droits qu'elle défend ?
C'est une position différente, évidemment. D'abord, c'est une Cour internationale. Une juridiction internationale a une position différente. C'est ce que je suis en train de découvrir. Nous avons la chance d'être 47 juges de cultures différentes, de traditions juridiques différentes. Et puis, nous avons la mission, effectivement, de connaître des litiges qui intéressent les 47 États du Conseil de l'Europe, ce qui fait qu'il y a un élargissement, évidemment, à la fois du champ des questions et puis des contextes politiques, historiques, sociaux, économiques dans lesquels ces questions se posent. Alors, la Convention se révèle un instrument vivant et efficace dans la protection des droits et libertés individuelles. Un instrument vivant, d'abord parce que 70 ans après son adoption, la Convention permet, grâce à la jurisprudence de la Cour et les adaptations qu'elle a su apporter au texte d'origine, aux interprétations, la Convention répond aux besoins contemporains. Et donc, je dirais, la première chose, c'est un instrument vivant, c'est-à-dire qu'il accompagne les évolutions de nos sociétés, y compris dans ce qu'elles ont de difficile ou de complexe, Et c'est un instrument efficace ensuite, parce que précisément étant adapté aux enjeux et aux questions contemporaines, la Convention est un outil juridique entre les mains de tous, hein. D'abord des autorités nationales, des juridictions nationales, ça fait principe des subsidiarités, et puis de la Cour en dernier ressort, pour faire la balance, le juste équilibre, comme on dit dans notre jurisprudence à la Cour, le juste équilibre entre le respect des droits, ce avec quoi on ne peut pas négocier, ce qui fait le propre de notre construction européenne, notre civilisation européenne, les valeurs de la démocratie, de l'état de droit, de la paix, de la justice, qui se traduit, c'est des déclines en droit, on sait, mais ce sont ces valeurs matricielles-là qui sont à protéger. Donc le juste équilibre entre le respect de cela, et puis forcément, ce qu'on appelle des ingérences dans la jurisprudence de la Cour, c'est-à-dire parfois, pour des besoins collectifs, des raisons impérieuses, des nécessités propres à la vie démocratique, quelques limitations, quelques restrictions, quelques atteintes qui peuvent être justifiées. Et le rôle de la Cour, c'est de faire vivre la Convention en veillant, lorsqu'elle est saisie, à vérifier si, d'abord, il y a une ingérence, et ensuite, si elle est justifiée et proportionnée. Et la Cour condamne quand elle estime que ça n'est pas le cas. Mais parfois, elle rejette les requêtes parce qu'après avoir fait cet exercice-là, ce contrôle-là, elle considère que ce juste équilibre a été ménagé.
Alors malgré ses 70 ans, la Convention est des fois assez méconnue. Il y a des fois des outils pour faire mieux connaître cette Convention. Et nous avons avec nous Caroline qui va nous parler d'un concours. De quel concours s'agit-il, Caroline ?
Alors, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un concours vidéo sur les droits de l'homme qui s'adresse aux jeunes âgés de 12 à 15 ans, habitants de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. C'est un concours qui est totalement dans la thématique de l'émission, car le 4 novembre marque les 70 ans de la Convention européenne des droits de l'homme, la convention phare du Conseil de l'Europe. Ce concours organisé par le Centre d'information sur les institutions européennes, le Lieu d'Europe, ainsi que le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme, a pour but de faire découvrir et réfléchir de manière ludique les jeunes collégiens sur les droits contenus dans cette importante convention.
Et concrètement, que faut-il faire pour participer à ce concours ?
Alors, c'est assez simple. D'abord, il faut choisir un droit parmi les articles 2 à 14 de la Convention européenne que l'on souhaite présenter. Il peut s'agir par exemple de l'article 2, le droit à la vie, ou l'article 4, l'interdiction de l'esclavage, ou encore l'article 10, qui est très d'actualité, avec la liberté d'expression. Donc, après avoir choisi, le jeune participant devra créer une petite vidéo d'environ 70 secondes pour le représenter à sa façon, avec originalité et lui donner vie.
Alors vous avez dit en début de chronique que le concours est également ouvert aux jeunes de l'Eurodistrict et de l'Ortenau. Devront-ils réaliser la vidéo en français ?
C'est une excellente question, puisqu'en effet, la vidéo peut être réalisée en français, mais la possibilité de la tourner en allemand est tout à fait ouverte aux participants. Et pourquoi pas également de la faire sans dialogue. Petite précision également, cette vidéo peut aussi bien être tournée par une personne seule que par un groupe. C'est donc au choix des participants. On peut également imaginer de le réaliser comme un travail scolaire. Enfin, pour recevoir les modalités détaillées du concours et s'y inscrire, il suffit d'envoyer un mail à lieuxdeurope@strasbourg.eu et ce avant le 10 décembre 2020.
Alors, pour les participants qui souhaiteraient s'inscrire, pourriez-vous juste nous redonner le site et le mail ?
Bien sûr. Pour le site internet, c'est lieuxdeurope.strasbourg.eu et l'adresse mail est lieuxdeurope@strasbourg.eu.
Merci Caroline pour ces informations.
Merci Olivier, bonne journée.
Monsieur Guillaumard, quel serait, vous, votre choix dans un concours comme celui-ci où il faudrait présenter un article de la Convention ? Vous, quel droit contenu dans la Convention choisiriez-vous de présenter ?
Alors, je pense que je ne ferais pas la même réponse aujourd'hui que celle que j'aurais faite si j'avais l'âge des collégiens ou des lycéens qui vont faire le concours. Si j'avais encore leur âge, je pense que j'aurais choisi la liberté d'expression. Et je crois que je le dis très évidemment avec la fiction rétrospective qui consiste à me placer aujourd'hui, j'ai 52 ans, quelques dizaines d'années en arrière, mais je pense que quand on est en construction, quand on est en train de façonner son autonomie comme individu, la liberté d'expression apparaît comme la chose la plus déterminante. D'ailleurs, dans la jurisprudence de la Cour, on rappelle fréquemment que c'est un droit particulier parce qu'il est indispensable au débat public, à la vie démocratique, à ce qui fait que nos sociétés fonctionnent bien avec la dose de respiration nécessaire. Et je crois que j'aurais choisi ce droit. Et d'ailleurs, je crois que ceux qui le choisiront feront un choix judicieux parce que la liberté d'expression, aujourd'hui, n'est pas épargné. Parfois, on doit connaître des assauts et il faut rester vigilant pour que ce bien précieux soit préservé.
C'est malheureusement un sujet d'actualité.
Et malheureusement. Aujourd'hui, je choisirais la dignité humaine. Je choisirais la dignité humaine parce que, après quelques années de vie, quelques années d'expérience, quelques années de pratique de juge, on aperçoit, sans faire de hiérarchie entre les droits, que ce droit-là, et la matrice de tous les autres. En fait, la dignité humaine, c'est ce qui nous fait homme, homme au sens humain, évidemment. Et tous les droits humains sont rattachés à ce qui nous fait homme. C'est pourquoi je choisirais la dignité qui est protégée par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un droit qui est d'ailleurs absolu, dans notre jurisprudence, nous l'avons consacré comme tel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y apporter une dérogation, on ne peut pas justifier une petite atteinte à l'article 3. C'est pas le caractère absolu. Il y a des droits qui peuvent connaître des limitations, j'en parlais. Pas la dignité. On ne peut pas souffrir une infime atteinte à la dignité humaine parce que c'est un bloc et elle touche à ce qui nous fait irréductiblement homme. Et voilà pourquoi je choisirais l'article 3.
Alors revenons encore un petit peu sur le concret de votre fonction. Comment décririez-vous le travail à la Cour européenne des droits de l'homme au quotidien? Comment ça s'organise? Comment on travaille dans cette Cour? Et peut-être comment ça se compare par rapport à votre travail précédent?
Je vais commencer par dire deux choses. D'abord, je ne suis que depuis quelques mois à la Cour européenne, donc j'ai encore beaucoup à apprendre. J'exerce pleinement déjà mes fonctions, mais voilà, dans quelques années, si vous me réinvitez, je pourrais dire les choses de manière beaucoup plus complète. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en période de confinement, vous vous en doutez, nous travaillons de manière différente.
C'était une de mes questions suivantes, c'est comment la Cour s'est finalement adaptée à cette question.
Oui, non, la Cour s'est adaptée pendant la première crise, le premier confinement, et d'une certaine manière, grâce à ce retour d'expérience, nous sommes rentrés très rapidement dans une phase opérationnelle, je dirais presque sans transition, du jour au lendemain, grâce au télétravail, aux visioconférences. Nous sommes capables de ne pas baisser notre niveau d'activité. Si je réponds maintenant, je ferme la parenthèse, en temps normal, comment fonctionne la Cour et qu'est-ce qui la sépare d'une juridiction nationale. Alors, d'abord, grande institution, au sens où beaucoup de personnes y travaillent. Ça, c'est la première chose qui est différente. Il y a des centaines de personnes qui travaillent tous les jours à la Cour et qui se mobilisent tous pour qu'elle puisse rendre les milliers d'affaires chaque année qu'elle a à connaître. En 2019, la Cour a réglé 40 000 affaires. Donc, c'est, vous voyez, un volume très important d'affaires qui ont été définitivement réglées, c'est-à-dire qui sont sorties du stock. Ça ne veut pas dire 40 000 arrêts, il y a eu un peu moins de 900 arrêts, mais il faut ajouter les décisions, les radiations, les règlements amiables, bref, tout ce qui met un terme définitif à une affaire. Donc 40 000 affaires, vous le dites, des centaines de personnes, on est dans un grand paquebot. La deuxième chose qui me frappe, j'en disais un mot tout à l'heure, c'est le creuset de la Cour constitue parce que nous travaillons dans deux langues, en français et en anglais, mais avec des personnes, les juges comme les agents du greffe, qui viennent des 47 États. Et c'est une richesse, et ça, par rapport à une juridiction nationale, c'est évidemment pour moi une découverte et un enrichissement considérable. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui donne aussi une dimension un peu géopolitique, un peu diplomatique à l'activité de juge, qui est tout à fait nouvelle pour moi. Et ça, c'est passionnant, c'est extrêmement stimulant. C'est une des choses aussi que j'espérais trouver à la Cour et je suis comblé. Et nous construisons ensemble, dans cette biodiversité juridique, culturelle, un patrimoine commun. D'abord, nous ne construisons pas complètement. Nous en avons hérité et nous le faisons vivre. Je dirais que nous sommes plutôt les légataires de ce patrimoine qui est en dépôt et que les pères fondateurs nous ont l'aider et que nous devons faire fructifier pour le bonheur, le bienfait de tous. Alors après, la dernière chose sur laquelle je voudrais mettre l'accent, c'est que le rôle de la Cour n'est pas le même que celui d'une juridiction nationale. La Cour n'est pas une quatrième instance des droits de l'homme. Mais la supervision qu'elle exerce, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle la responsabilité partagée. C'est-à-dire que vous avez, en réalité, des compétences qui se complètent. Celles des États, de leur juridiction, qui, dans le cadre du principe de solidarité, sont les premiers gardiens de la Convention, les premiers garants du respect effectif des droits. C'était ce que je faisais avant, quand j'étais Conseil d'État, c'est ce que les juridictions françaises font, comme les juridictions de tous les États du Conseil de l'Europe. Et la Cour intervient lorsque un particulier qui réside sur le territoire de cette grande Europe, et sous la juridiction de la Cour, s'estime victime d'une violation d'un des droits protégés par la Convention, et que cette violation n'a pas été réparée de manière satisfaisante à ses yeux par les juridictions de son État. Alors il vient devant la Cour, après ce qu'on appelle l'épuisement des voies de recours interne, et il demande qu'on apporte un remède à cette situation. Et la Cour intervient là, vous voyez, en dernier ressort, et elle doit voir aussi comment les juridictions nationales ont travaillé, comment elles ont appréhendé le litige, et finalement, nous faisons aussi le contrôle du contrôle, c'est-à-dire que nous vérifions si la jurisprudence de la Cour, les critères du contrôle qu'elle exerce, ont été bien respectés par les juridictions nationales, si les cours nationales ont fait travail de mise en balance, j'ai parlé de la mise en balance tout à l'heure, contrôle de proportionnalité qui est conforme aux standards de la Convention, aux exigences de jurisprudence de la Cour, et puis nous tenons compte des marges nationales d'appréciation, parce que après, il y a évidemment une situation qui est toujours incarnée, qui est toujours dans un contexte, et c'est tout ça que la Cour pèse, et à la fin, elle va soit constater une violation et condamner l'État, ce qui devra le conduire à apporter un remède à la situation individuelle en question, soit elle va constater que, en réalité, la bonne réponse a déjà été apportée au niveau national, et du coup, elle va rejeter la requête. Et donc, vous voyez, ce positionnement de la Cour, qui est un peu une Cour constitutionnelle des droits de l'homme au niveau européen, est très différent de celui d'une juridiction interne.
Alors je vous avais demandé, en préparant cette émission, de choisir, pour faire une petite pause musicale, de choisir votre chanson, votre titre musical que vous souhaiteriez écouter et présenter pendant cette émission. Et vous avez choisi Le Petit Bonheur de Félix Leclerc, une chanson qui incite à profiter un peu du bonheur présent, c'est bien ça?
Oui, c'est une chanson qui me touche beaucoup. Vous m'aviez dit qu'il fallait que je fasse un choix très personnel, donc j'ai été au fond de moi. Et en fait, c'est la seule chanson que je connais par cœur, parce que je la chante à mes enfants tous les soirs. Alors, au fil de l'orage, j'ai 5 enfants, l'un après l'autre, ils ont le droit à la même chanson. Pourquoi je la chante? Parce que j'aime cette chanson, que j'écoutais quand j'étais petit. Et d'abord, je trouve que c'est un petit bijou de langue, et le français est manié par Félix Leclerc, avec une grande simplicité, une grande profondeur à la fois dans cette chanson, comme dans les autres d'ailleurs. La mélodie, elle est joyeuse, alors que l'histoire est triste. Et j'aime bien aussi cette tension entre l'entrain de la musique et puis la petite larme qui peut venir à l'œil en écoutant les paroles si on y prête attention. Mais il y a un message aussi, et vous avez raison de le relever, un message qui fait que j'aime beaucoup cette chanson, par quelques bouts que je la prenne, c'est qu'elle incite à l'optimisme. Elle est triste, mais finalement, Gramsci a cette belle formule qui consiste à dire il faut être capable à la fois du pessimisme de l'intelligence et de l'optimisme de la volonté. Et cette chanson-là, elle me parle pour ça aussi, parce que quoi qu'il arrive, il y a une forme d'optimisme de la volonté qui est plus forte que tout. Alors on profite des bonheurs quand ils viennent, des petits bonheurs, il faut en profiter, et puis on tient bon quand ils s'en vont. Voilà, c'est pour ça que j'adore cette chanson.
Mais ce que je vous propose, c'est de l'écouter tout de suite.
C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens tente dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais des goûts de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles. Et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.
Vous êtes le juge au titre de la France, à la Cour européenne des droits de l'homme. On a cette idée en France que notre pays, patrie des droits de l'homme, est quand même souvent condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Comment se situe la France, on va dire, en chiffres, par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme ?
Alors, c'est une fausse idée. Si j'étais un homme politique, je suis très content que vous ayez posé cette question. C'est une fausse idée, donc ça va me permettre de rectifier les choses. En fait, il y a une distorsion entre la perception qu'on a et la réalité. Cette distorsion s'explique par le fait que, s'agissant des arrêts, c'est-à-dire des affaires qui sont portées en chambre, vous avez un taux de condamnation qui est assez important, effectivement. Depuis 1986, le premier arrêt qui concerne la France, à la Cour, date de 1986. Il y a eu un peu plus de 1000 arrêts rendus concernant la France. Il y a eu 33 000 requêtes concernant la France. Donc, vous voyez, là, la proportion de ce qui va jusqu'au niveau des arrêts est assez faible. Hein. 33 000 affaires, 33 000 requêtes, on peut plus de 1 000 arrêts. Ce sont ceux dont on parle, les 1 000 arrêts. C'est la face immergée de l'iceberg. Si vous voulez. Sur ces 1032 arrêts, il y en a 749 qui sont des arrêts de violation. Donc vous avez une proportion, plus de 70%, élevée, qui peut expliquer qu'on ait l'impression que la France est très souvent condamnée. Si je prends les trois dernières années, en 2017, il y a eu 12 arrêts concernant la France, 6 violations. En 2018, 16 arrêts, 8 violations. En 2019, 19 arrêts, 13 violations. Et le sentiment qu'on a vient de là. Si on appréhende maintenant l'ensemble, eh bien, ça n'a rien à voir. Je reprends les trois dernières années. En 2017, en fait, il y a eu 6 violations pour 925 affaires françaises traité, c'est-à-dire moins d'un pour cent. En 2018, c'était un peu plus d'un pour cent, 1,02, et en 2019, 2%. Donc la proportion des condamnations par rapport au nombre d'affaires françaises est assez élevée hein, par rapport aux autres États. La France connaît pas mal d'affaires. Eh bien, elle est très, très, très faible. Et si je prends maintenant, sur une période un peu plus longue, 20 ans, 1998-2019, les arrêts de violation contre la France, c'est 2,4% des affaires nous concernant, et c'est 3,9% de l'ensemble des condamnations. Nous sommes donc à des taux très faibles. Donc vous voyez, et j'étais un peu long avec ces chiffres-là, il faut replacer les choses. Ce qu'on voit, ce qui fait parler de la Cour, ce qui entraîne des changements dans notre législation, dans les jurisprudences des cours nationales, ça n'est qu'une toute petite proportion du nombre des affaires qui sont portés devant la Cour et qui concernent la France. Et
pour aller plus loin, de quelle manière finalement les citoyens français bénéficient-ils de la CEDH ? Comment vous jugez l'apport de cette Cour par rapport au droit français, par rapport à la France ?
Là, le constat que je fais est le même selon que je prends mon ancienne casquette de juge au Conseil d'État ou ma nouvelle casquette de juge à la Cour. C'est l'impact élevé de la Convention sur le droit français. Et cet impact, en réalité, ça n'est pas un bouleversement. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est heureux parce que je pense que si la Convention venait bouleverser les ordres juridiques, pas seulement de la France, mais d'autres États, il y aurait un problème d'acceptation. On ne peut pas comme ça plaquer un ordre juridique de l'extérieur. Ça n'est pas possible. Je crois que personne ne s'y retrouverait. Donc ça n'est pas un bouleversement. Je dirais que c'est une irrigation et un enrichissement. Et ça s'explique de deux manières. D'abord parce que quand on a écrit la Convention en 1950, on s'est inspiré, les pères fondateurs se sont inspirés des traditions juridiques qui faisaient l'histoire libérale et humaniste de l'Europe. Et donc, toute notre histoire juridique française, elle était là au moment de rédiger la Convention. Et elle a influencé, si vous comparez la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et la Convention européenne, vous trouvez beaucoup de points communs, beaucoup de similitudes. Donc, d'une certaine manière, notre propre conception française des droits de l'homme, elle est à la source aussi de la Convention. C'est pour ça que l'irrigation se fait de façon harmonieuse, parce que finalement, le lit et de la rivière est déjà creusé. Alors, enrichissement, parce que la Convention joue le rôle d'un aiguillon. C'est vrai que cette spécificité d'un contrôle européen des droits de l'homme conduit un certain nombre d'États à bouger un peu, faire évoluer un peu leur législation. Ça peut conduire à élever le niveau de protection des droits. Et c'est pour ça que la Cour est un instrument utile. C'est parce que là où elle intervient, ça va toujours dans le sens d'une élévation du niveau de protection des droits. Je peux vous donner quelques exemples qui concernent la France, si vous voulez. Lorsqu'en 2000, la France est condamnée pour la discrimination qui était faite en matière successorale entre les enfants dits adultérins et les autres, eh bien, on change la loi et il n'y a plus de traitement différent entre ces enfants. Ça, c'est un élément concret, très précis. La présence de l'avocat en garde à vue, c'est aussi une réforme qui a été, d'une certaine manière, engagée à la suite d'un certain nombre de condamnations de la Cour sur le terrain du procès équitable. Je parlais de la dignité. Dans les années 2010-2011, il y a eu beaucoup d'arrêts qui ont concerné les conditions de détention dans les prisons françaises. Et il y a eu là un mouvement qui s'est engagé, qui a été largement relayé par les juridictions nationales, et qui n'est pas fini, ce mouvement. Il y a eu encore des condamnations au mois de janvier à cause de la surpopulation carcérale. Et donc, vous voyez que la Cour, d'une certaine manière, pousse les États à se réformer. J'ai donné ces exemples-là. Il pourrait y en avoir, évidemment, bien d'autres. Les droits des militaires à se constituer en association professionnelle, l'encadrement des écoutes téléphoniques, les questions de bioéthique avec l'avis consultatif qui a été rendu en 2019 à la demande de la Cour de cassation sur les enfants nés de GPA. Dans tous ces domaines-là, la Cour donne à la Convention cette portée effective qui en fait, comme le dit le préambule de la Convention, un élément non seulement de sauvegarde, mais aussi de développement des droits de l'homme. Et c'est l'idée de développement qui est importante. Hein. C'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure d'un legs, hein, on le fait fructifier. Il faut que tous les jours, on essaye de faire progresser le niveau de protection des droits.
J'aurais envie de vous demander une dernière petite chose avant de nous quitter. Que pourrions-nous vous souhaiter en tant que juge à la Cour européenne des droits de l'homme pour les 9 prochaines années? Qu'est-ce que vous voudriez que l'on vous souhaite?
Écoutez, beaucoup de petits bonheurs, comme pour revenir sur la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure. Pour un juge, les petits bonheurs, c'est tous les jours qu'on essaye de les vivre. En les faisant pas pour soi, mais pour l'idée qu'on se fait de la justice et du progrès dans la protection des droits individuels. Et donc, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est quand je partirai dans 9 ans, c'est pas tout de suite, c'est d'avoir réussi avec mes collègues à ce que, dossier après dossier, litige après litige, on ait réussi à faire 2 choses à la fois. À faire vivre cet instrument de la Convention, faire évoluer la jurisprudence au plus près des besoins, dans des contextes qui, à mon avis, ne vont pas s'améliorer, Ça, c'est très important. Je dirais, c'est niveau macro. Et à la fois, niveau micro, c'est-à-dire s'agissant des gens qui sont venus nous voir, qu'on ait réglé le mieux possible leur situation, qu'on ait apporté le meilleur remède possible aux problèmes qui étaient portés devant nous. Voilà, c'est ce que Joachim appelle la bonne réponse, qu'on ait apporté la bonne réponse.
Ben merci Monsieur Guillaumard, je rappelle que vous êtes le nouveau juge au titre de la France à la Cour européenne des droits de l'homme et je vous remercie pour votre participation à cette émission. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Fréquence Europe. À bientôt.